30 secondes. Voilà, Greenwich me dit qu'il est 20h30 à Big Ben. Nous allons aborder ce soir un sujet qui théoriquement ne semble pas très compliqué, à savoir le rôle de l'Assemblée dans la liturgie. Il s'agit non pas de la place de l'Assemblée, mais du rôle de l'Assemblée. Donc, c'est un peu différent. Ce que je voudrais partager avec vous ce soir, c'est cette grande insistance du Concile Vatican II sur le rôle et la mission de l'Assemblée, et qui me paraît être si délicate sur le terrain pastoral et liturgique. On sait que l'Assemblée a sa place et est importante, mais en fait, comment est-ce que cela se passe ? Alors, c'est un institut de théologie, donc vous avez vu d'emblée, ces conférences sur la liturgie ne sont pas un ensemble de recettes, ce n'est pas uniquement des histoires ou des exemples, mais fondamentalement, je m'attache à vous donner davantage des fondements qui vous permettre, en tout cas pour ceux d'entre vous qui sont davantage engagés dans le comment célébrer la liturgie, de veiller davantage à une mise en œuvre optimale d'un point de vue liturgique, mais aussi d'un point de vue théologique, et peut-être surtout d'un point de vue spirituel. En fait, comme vous le savez, le Concile Vatican II, qui a été un élément extrêmement important pour comprendre l'évolution de la liturgie romaine, la liturgie occidentale, le Concile Vatican II a cherché d'emblée, on l'a répété souvent, à ne pas être un concile doctrinal au sens de définition dogmatique. Son projet était d'abord et avant tout pastoral, mais une bonne pastorale, c'est-à-dire appuyée sur une solide réflexion qui, comme vous le savez, a été profondément nourrie par la Bible et les pères de l'Église, davantage que par certaines philosophies choisies plutôt que d'autres. Et donc, en réalité, dans le cadre de la liturgie, le Concile ne s'est pas préoccupé de construire, de proposer un exposé doctrinal sur la liturgie comme telle. Il se situe d'un point de vue pastoral et vise, en ordre principal, à permettre aux fidèles d'intervenir dans les célébrations liturgiques par ce que le Concile appelle une participation active, consciente, priante, et non plus, comme dit la Constitution sur la liturgie, comme des spectateurs étrangers et muets. Si on parle de spectateurs étrangers et muets, les pères conciliaires de Vatican II n'ont pas inventé cela, c'est effectivement une situation que sans doute les aînés parmi nous ont connu, je me souviens encore, pendant les messes jadis en latin, donc il y avait de tas de choses qui se passaient dans l'Église pendant la célébration. À l'époque, on ne parlait pas d'Eucharistie, mais de messe. Hein. Pas simplement les personnes qui mettaient des petits sous dans les différents tiroirs destinés à recevoir le bol des fidèles, hein, mais également, il y avait donc une série de dévotions privées. Alors, aujourd'hui, cette participation dite active va de soi, du moins en théorie, car la pratique est encore très déficiente et on y consacrera dans 3 semaines toute une conférence. En fait, pour mieux comprendre l'apport du Concile Vatican II au niveau du concret de nos célébrations liturgiques, je pense qu'il faut une fois encore, brièvement, rassurez-vous, se rappeler ce qui se passait avant le Concile. Et avant le Concile, la pastorale se préoccupait essentiellement de 2 choses. 1, convaincre les fidèles d'accéder au sacrement. Convaincre les fidèles de venir à l'Église et d'y recevoir les sacrements. Ensuite, la pastorale se préoccupait de préparer les fidèles à une fructueuse réception de ces sacrements par des pratiques dévotionnelles appropriées. Et la pastorale s'arrêtait là où commençait la célébration du sacrement parce que, disait-on, le sacrement produit son effet chez le fidèle bien disposé, on dit ça en latin, ex opere operato, c'est-à-dire en vertu de la force même de l'acte qui est posé. Hein, donc c'était l'abbé de Clercq l'a évoqué dans sa conférence sur, entre guillemets, la présence réelle, la manière dont on représentait les choses jadis. Et donc, en réaction aux négations protestantes, il l'a bien rappelé, non pas de la présence du Christ dans l'Eucharistie, mais du mode de présence, de la manière dont, pour dire ça en termes un peu simplistes, de la manière dont on explique la fabrication de la présence, c'est ce point-là qui a été très fortement mis en question par Luther et ses amis. En réalité, les catholiques, par rapport à cela, ce qu'on appelle la contre-réforme, va souligner très fortement que, à partir du moment où on fait ce que veut faire l'Église, il suffit que l'action soit posée pour que, si vous voulez, ipso facto, elle produise ses effets. Il y a toutefois une condition supplémentaire, c'est que pour que l'effet qui est là disponible soit effectivement approprié par les fidèles, il faut que le fidèle accueille ces effets. Il faut qu'il s'y ouvre, bien sûr. Donc ce n'est pas de la magie, ce n'est pas d'automatisme, mais c'est une manière, en réalité, de souligner l'objectivité du sacrement qui n'est pas dépendant de ma subjectivité, il n'est pas dépendant de ma sainteté ni de la sainteté du ministre. Cela remonte très très loin donc à saint Augustin qui, en fait, s'est trouvé dans une situation ecclésiale très délicate, d'hérésie, de schisme, en fait de bagarre entre deux églises chrétiennes. Et les opposants, en fait, disaient, les catholiques, ceux qui se présentent comme tels, en fait, ça ne sont pas des bons chrétiens, parce qu'en réalité, ils ont, donc l'Eucharistie, les sacrements sont conférés par des prêtres qui sont ordonnés par des évêques indignes, et donc, en réalité, comme l'évêque qui leur donnait n'est pas digne, le prêtre ordonné n'est pas digne, et donc les sacrements qu'il donne ne sont pas dignes non plus. Et donc, Augustin veut souligner le fait que le sacrement comme tel, à partir du moment où on fait ce que veut faire l'Église, est hors de portée de la sainteté personnelle du ministre. Et c'est, d'un point de vue pastoral et d'un point de vue ecclésial, extrêmement précieux, même si, bien entendu, il est souhaitable que le ministre soit le plus saint possible. Je vous racontais l'histoire de ce film qui s'appelle Le Défroqué. Je crois que je l'ai raconté ici, je pense, hein ? Non ? Donc, c'est pour illustrer l'histoire de Ex opere operato. Donc, à partir du moment où, jusqu'au Concile, hein, on soulignait que le sacrement a sa valeur, à partir du moment où le geste sacramentel est posé, c'est l'histoire, idiote en fait, hein, je n'ai pas vu ce film, on me l'a raconté, hein, qui se passe dans un bar à Paris. En fait, c'est un prêtre qui, dans les folles années 70, défroque, donc il quitte le sacerdoce, et il retrouve un ancien compagnon de séminaire, très pieux, très vertueux, très attaché à son ministère et à l'Église. Et donc, il l'emmène dans un bar parisien, et puis, dans le feu de l'action, à un moment donné, sur une coupe de champagne, enfin sur un seau contenant une bouteille de champagne, il prononce la parole de la consécration, « Ceci est mon sang, prenez et buvez ». Le jeune prêtre très dévot est affolé et donc il pense qu'il s'agit du sang du Christ. Il vit toute la bouteille de champagne, il est ivre, etc., etc. Donc un scénario absolument idiot. Bien entendu, il n'y a pas de transsubstantiation pour prendre le terme approprié, puisque il n'avait pas l'intention de faire ce que fait l'Église. Mais ce film stupide montre bien à quel point cette insistance du Concile de Trente est bien passée dans les mentalités chrétiennes où on soulignait la force, hein, l'importance de l'action une fois qu'elle est posée. Et donc, je reviens à mon propos initial. La pastorale, elle s'occupe, un, d'amener les fidèles à l'Église le plus possible, deux, qu'à l'Église, ils se préparent le mieux possible à recevoir dévotement et fructueusement le sacrement. Mais dès lors que il s'agissait d'évoquer le sacrement et sa liturgie, on ne s'en occupait plus puisque c'était automatique, si vous voulez. Donc les effets se produisaient d'eux-mêmes à partir du moment où l'action est posée. Et donc, ce qui va profondément changer par rapport à cela, c'est que la théologie sacramentaire va bouger, et elle va bouger de manière très compréhensible. Ce qui va désormais être central, c'est le rapport entre, d'une part, l'ecclésiologie, donc cette branche de la théologie qui s'intéresse à la nature de l'Église, donc le rapport entre l'ecclésiologie et la célébration liturgique. Donc, dans la réflexion autour des sacrements aujourd'hui, on est extrêmement attentif à ce rapport entre ces deux termes, d'une part l'Église et d'autre part la liturgie. Donc les liturgistes ont redécouvert que l'assemblée liturgique doit être définie comme Église au sens propre et que, pour prendre le jargon des théologiens, que cette assemblée est le sujet intégral de l'action liturgique. Le sujet intégral de l'action liturgique, c'est l'assemblée, dont le prêtre fait partie, comme baptisé. Alors, il n'y a pas que l'assemblée, hein, donc on a l'occasion de leur parler ici de la mission du prêtre, et puis il y a une conférence, vous l'avez vu, qui est consacrée spécifiquement à la présidence de l'Eucharistie. Et donc, c'est la raison pour laquelle la seule dévotion ne suffit plus, puisque désormais, toute l'assemblée devient célébrante. C'est la raison aussi pour laquelle on insiste sur une participation active, souligné trois fois au Bic Rouge, hein, une participation active, consciente et priante, hein, pius en latin, une participation véritablement où, comme je paraphrasais Saint-Benoît la fois dernière, où le mental correspond avec le vocal. Lorsque le peuple est rassemblé, c'est une citation, c'est en fait une citation des premiers mots de la première rubrique du missel, la fameuse PGMR, Présentation générale du missel romain, lorsque le peuple est rassemblé. Et donc, ces quelques mots sont essentiels pour saisir ce qu'est une célébration eucharistique, même si le missel issu de Vatican II prévoit aussi la messe avec le seul prêtre et sans autre assemblée, mais à titre d'exception et, je cite, par grave nécessité. C'est la grande différence, hein, cette insistance sur l'assemblée, entre le missel actuel, qu'on appelle le missel de Paul VI, qui, pour ceux qui sont intéressés par l'histoire de la liturgie, donc, qui a été donc, promulgué par Paul VI en 1970, deuxième édition en 1975, et la dernière édition date de 2002. Et donc, la différence entre ce missel dit de Paul VI et le missel de Saint Pie V, promulgué en 1570, qui est le missel issu de la réforme liturgique initiée par le Concile de Trente, qui, cette réforme au Concile de Trente, prenait comme modèle la messe privée du prêtre. Et la messe solennelle n'était qu'une amplification de la messe privée du prêtre. Je vous donne un exemple. Jadis, lorsqu'il y avait la grand messe, hein, il y avait des chants, il y avait des parties de la messe qui étaient chantées par la chorale. Eh bien, le prêtre était tenu à voix basse de dire lui-même les parties que la chorale chantait par ailleurs. Un autre exemple sur l'importance de la messe privée du prêtre, je m'attarde en parenthèse ce soir, il faudrait que je fasse attention pour la suite, c'est que, en réalité, c'est lié à toute une manière de voir la pénitence, de voir les sanctions divines, de voir l'importance de trouver, si possible, un joker pour échapper au feu éternel par rapport à toutes les énormes bêtises que j'ai commises. Et on a donc, outre les pèlerinages, outre les croisades, outre les manifestations plus combatives qui ont été proposées en réparation, on a donc dit, mais si vous voulez, vous pouvez faire dire une messe, vous pouvez faire célébrer les messes pour le salut de votre âme, quand vous êtes plus généreux, pour le salut de l'âme d'un autre, ou éventuellement, si vous êtes réaliste, de toute votre famille. Et donc, on va demander aux prêtres de célébrer des messes. Je vous ai expliqué la première fois, je pense, la première conférence, que c'était une des origines du nombre très important de prêtres, puisqu'il fallait des prêtres pour célébrer ces messes. Et j'ai trouvé, en préparant les notes ce soir, j'ai trouvé un texte anglais qui disait ceci, donc avant le Concile de Trente, donc avant le 15e, qui dit « En fait, le prêtre ne peut célébrer qu'au maximum 30 messes par jour. » Et le mieux, c'est qu'il ne dépasse pas 7. Donc, on est dans une perspective, si vous voulez, de messe, effectivement, privée, c'est l'affaire du prêtre, sans doute dans un but louable, mais dans cette compréhension-là, demander à la communauté paroissiale de venir 30 fois par jour à l'église, c'est peu probable. Hein. Et donc, manifestement, la manière, si vous voulez, de présenter ce qu'on appelle aujourd'hui l'Eucharistie, amenait à, entre guillemets, privatiser cette liturgie. Alors, le Concile Vatican II, en fait, va donc présenter comme règle la célébration rassemblant le peuple de Dieu, quel que soit le nombre ou l'âge des participants. Si bien que la place de l'Église dans la célébration va en ressortir très différemment par rapport à ce que le missel de Saint Pie V avait proposé en s'arc-boutant sur la messe privée du prêtre. En fait, il ne s'agit plus du prêtre désormais qui dit sa messe, mais il s'agit du ce que le Concile appelle le rassemblement du peuple de Dieu, prêtre inclus, qui rend grâce par lui, avec lui et en lui, le lui avec un grand L étant bien sûr le Christ. Et donc, l'assemblée du peuple de Dieu est la première réalité sacramentelle de la messe. La première au sens où, de manière un peu vulgaire, c'est la première présence du Christ sur laquelle on tombe quand on entre dans la célébration eucharistique. Si on tombe dessus. Parce que je vous ai évoqué la fois dernière la grande difficulté pastorale de faire prendre conscience aux fidèles qui nous rejoignent lors des assemblées dominicales, c'est beaucoup moins vrai pour les assemblées en semaine, mais de leur faire prendre conscience que nous formons ensemble un seul corps d'emblée et que c'est le Christ qui nous invite, comme fait les cloches, et que là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Donc il y a une présence du Christ qui est réelle au sens, ne me faites pas polémiquer inutilement, mais donc là, c'est une véritable présence du Christ qui a été soulignée très clairement par le Concile Vatican II, par le numéro 7 de la Constitution sur liturgie, et qui a été reprise par cette très belle encyclique de Paul VI sur le mystère eucharistique. Et donc, l'assemblée du peuple de Dieu est la première réalité sacramentelle de la messe. Au-delà de sa constitution concrète, il faut considérer cette assemblée comme œuvre de Dieu. Les participants à la messe d'emblée y sont invités, ils y sont même convoqués. Et l'assemblée est convoquée pourquoi ? Pour l'écoute de la parole, pour la prière, pour l'action de grâce, pour le chant des œuvres de Dieu, pour l'obéissance au commandement du Christ « Faites cela en mémoire de moi » et pour communier ensemble. Vous rappelez aussi, c'était notre rencontre, la première conférence, l'étymologie même du mot liturgie, liturgie en grec, qui renvoie à un substrat communautaire. Vous rappelez que en grec classique, liturgia signifie œuvre du peuple. D'une part, il y a la ergon, œuvre travail, et d'autre part, l'adjectif leitos, qui vient de laos, qui appartient au peuple. Et vous rappelez que dans la démocratie grecque, la leiturgia désignait un service rendu au bien commun, soit par des citoyens aisés, soit par des municipalités. J'ai pris l'exemple d'un mécène qui entretenait le chœur avec un H d'un théâtre grec, ou encore quelqu'un qui équipait un navire. Lorsque on va traduire l'Ancien Testament, vous rappelez de l'hébreu en grec, enfin ce que nous appelons l'Ancien Testament, les Septante, les Septante sages traducteurs, vont utiliser la liturgia pour désigner le service religieux rendu à Dieu et au peuple par les prêtres et les lévites dans le temple, par opposition au culte qui est privé, donc le culte personnel privé. Vous rappelez aussi que l'Occident a regimbé, a utilisé la translittération du mot grec liturgia, et on a préféré le mot cultus, le mot culte, c'était le terme générique, pendant des siècles en Occident, jusqu'au moment où est apparu ce qu'on appelle le mouvement liturgique. Première moitié du XXe siècle, initié par un moine qui va devenir célèbre, en fait c'est un prêtre du diocèse de Liège, qui devient moine bénédictin à l'abbaye du Mont César, donc à Louvain-la-Veuve, et qui, en réalité, va fonder un beau jour le célèbre monastère de Cheftogne. Et donc, Don Lambert Baudouin a été un des grands protagonistes de ce qu'on appelle le mouvement liturgique. Lui et un jésuite autrichien que vous connaissez peut-être moins, Joseph Andreas Jungmann, qui a écrit sans doute l'ouvrage le plus utile aujourd'hui encore en français, sans trois briques, sur l'histoire de la messe, comme il a écrit ça, donc c'est la messe de Saint-Pie V, avant le Concile Vatican II, mais ceux qui s'intéressent à l'histoire de l'Eucharistie latine vont trouver là un véritable, comment pourrais-je dire, c'est une mine, oui, j'allais dire une caverne d'Alibaba, mais ce n'est pas, parce qu'en fait, il est très très bien informé et c'est bien structuré. Ça s'appelle « Explication génétique de la messe hein, » en trois volumes. Et donc, ce Jungmann, et dont Lambert Baudouin, donc Jungmann et dont Lambert Baudouin vont faire un détournement, non pas d'avion, mais un détournement de définition, et ils vont renommer la liturgie en disant que la liturgie, deux points, c'est le culte de l'Église. Vous allez me dire, comment est-ce qu'on peut y étendre sa livre pour une telle évidence ? En fait, ce n'était pas évident à l'époque. Donc, on était dans le générique culte, et ils vont accoler à ce culte le substantif Église. Et cela va changer beaucoup de choses. Car, en réalité, désormais, liturgie et Église sont liées pour le meilleur comme pour le pire. Je commence par le pire. Si vous réduisez, parce que c'est une fameuse réduction, si vous réduisez l'Église à n'être qu'une hiérarchie, alias une société parfaite, qui donne des ordres pour que partout ce soit exactement les mêmes gestes qui soient posés au même moment, à ce moment-là, du culte en question, vous proposez une image extrêmement réductrice. Donc, c'est, si vous voulez, l'application du règlement. Je vous donne un exemple. Par exemple, jadis, donc, hein, quand tout était uniformisé, il était prévu pour les moines trappistes que, à partir, je crois que c'était à partir de la fête de l'exaltation de la Sainte Croix, à la mi-septembre, tous les moines devaient porter une coule en laine. On pouvait, la coule, c'est le grand vêtement blanc hein, qui part du cou, qui va jusqu'au pied, avec des manches deux fois plus longues que le bras. Et donc, en été, il y avait des coules plus légères, et à partir de l'exaltation, c'était des coules en laine. Et donc, les pauvres moines africains qui, en fait, vivaient cette vie-là, à partir de la mi-septembre, étaient affublés de laine hein, dans un climat pareil au Chili, hein, où les saisons sont inversées. Et donc, si vous voulez, à partir du moment où on insiste hein, sur l'Église comme société parfaite qui a autorité, et elle a autorité, hein, d'organiser la discipline liturgique, eh bien, c'est clair qu'à ce moment-là, la liturgie, si vous voulez, c'est un peu comme un observatoire pour voir si on est bien obéissant aux instructions qui viennent du Vatican. J'exagère à peine. Ça, c'est une conception de la liturgie, de l'Église. L'autre conception de l'Église, et c'était celle du père Jungmann et de Don Lambert Baudouin, c'est de dire que, en fait, il s'agit du sacerdoce visible et continué de Jésus-Christ dans son corps mystique et qui est manifesté, qui est communiqué par ce qu'il appelle la hiérarchie ecclésiastique. Donc, dans cette manière de voir l'Église, si vous voulez, l'Église est essentielle à la liturgie parce qu'elle prolonge l'acte sacerdotal de Jésus himself. Et c'est cela qu'il voulait mettre en valeur, et non pas le caractère organisationnel. Alors, en fait, la question est, si vous liez, et il faut le lier, Église et liturgie, avec quelle notion de l'Église réfléchit-on à la liturgie ? Que mettons sous le mot « Église » quand on dit que l'Église offre l'Eucharistie ? Et quel est le sujet des actions liturgiques ? Bon, je ne vais pas trop continuer sur ce sujet, parce que sinon, Mgr de Kesel, jeudi prochain, n'aura plus grand-chose à dire. Il sera peut-être, sans doute, certainement plus clair et plus concret que moi. Et c'est un sujet, je vous l'ai dit au début, d'un point de vue pastoral, qui me paraît tellement urgentissime. Il y a un tel, me semble-t-il, déficit d'Église chez celles et ceux qui viennent nous demander un sacrement. Particulièrement, je songe, des sacrements, entre guillemets, apparemment plus personnels, plus familiaux, que ce soit un baptême, que ce soit un mariage, que ce soit la réconciliation. Comment peut-on, d'un point de vue pastoral, intensifier la place de l'Église dans chacun de nos sept sacrements ? Venons-en au Père de l'Église. Vous savez que les pères de l'Église insistent beaucoup sur l'Église comme lien entre la tête et le corps. En latin, caput, la tête, et le corps, corpus. Le Christ comme tête et l'Église comme son corps. L'un ne va pas sans l'autre, on ne peut pas les séparer. Et le fait que la tête ne va pas sans le corps sera pour nous d'une grande importance quand nous réfléchirons davantage sur la mission spécifique du président des célébrations liturgiques. Mais revenons ici à cette insistance des pères de l'Église sur le lien entre la tête et le corps. Et comme vous le savez, vous savez peut-être qu'il y a dans la célébration eucharistique, il y a un rite qui intrigue fort. Il y en a deux qui sont intrigants. Mais le plus intrigant, en tout cas pour les enfants, c'est quand on va mettre une goutte d'eau dans le vin. Et d'autres sont intrigués quand on met un petit morceau d'hostie dans le calice. Mais depuis Saint-Cyprien, donc, qui meurt martyr au IIIe, si la mémoire est bonne, je crois que c'est en 258, donc Cyprien, qui était évêque de Carthage en Afrique du Nord, je vous rappelle que l'Afrique du Nord n'était pas simplement le grenier à blé de Rome, mais l'Afrique du Nord a une importance absolument essentielle pour la vitalité de l'Église latine. Alors qu'à Rome, les chrétiens bien nés, comme on dit, causaient encore grec, en tout cas que les messes étaient célébrées en grec, et cela jusqu'au IVe siècle, c'est en Afrique du Nord que les chrétiens d'Occident, d'Occident, parce que en fait l'Afrique du Nord était plus de sensibilité occidentale que africaine à l'époque, en tout cas les gens cultivés, et donc c'est en Afrique du Nord qu'on a eu les premières traductions latines de la Bible et qu'on a effectivement les premières expressions de liturgiques en latin. Et donc depuis Saint Cyprien, on aime évoquer à propos précisément de ce lien entre le Christ tête et son corps qu'est l'Église. On aime évoquer le rite de cette goutte d'eau qu'on joint au vin. Pour Saint Cyprien, ce sont les chrétiens qui sont joints au Christ. Je le cite, c'est très beau comme image. S'il n'y a que du vin, le sang du Christ y devient présent sans nous. S'il n'y a que de l'eau, le peuple devient présent sans le Christ. C'est une image, mais elle est très significative. Et cette image a été travaillée par le grand théologien qui est Yves Congar et qui a beaucoup contribué à remettre à l'honneur cette ancienne, entre guillemets, évidence théologique, à savoir le lien entre le Christ tête et son corps et le rapport entre ce lien et la célébration de l'Eucharistie. Je le cite, Congar. « Tout ce que le Christ a fait de salutaire, il l'a fait comme notre chef. » Donc, chef, c'est-à-dire comme notre tête. Il l'a donc fait pour nous, en nous portant tous en lui, mais de telle manière qu'il l'a opéré plus à notre bénéfice qu'à notre place, et que son corps doive le faire après lui par sa vertu toujours active. Ce point de vue mystico-christologique donne son équilibre à la vision du rôle sacerdotal des fidèles. On n'est pas en présence simplement d'un rapport à deux termes, d'un côté les fidèles et de l'autre prêtre hiérarchique, il y a un troisième terme qui enveloppe les deux autres en les associant organiquement. Mais comment est-ce que les membres du corps du Christ pourraient-ils bien être associés à l'offrande du Christ ? Réponse, grâce à l'action de l'Esprit-Saint. L'Esprit, dira saint Augustin, qui est l'union du Père et du Fils, l'Esprit qui vise à nous unir à la fois à Dieu et entre nous. Pour saint Augustin et pour tout l'Occident à sa suite, il y a corps du Christ quand il y a Esprit du Christ. Il y a corps du Christ quand il y a Esprit du Christ. Et donc c'est la fonction de la deuxième épiclèse, l'épiclèse sur les fidèles, dont on a déjà parlé plusieurs fois depuis le début de ces conférences. Comme on le sait, Augustin va souligner beaucoup l'importance de l'unité dans l'Église, au point de passer comme docteur de l'Église communité. Donc, certes, on dit qu'il est docteur de la grâce, mais on aurait pu dire également qu'il est le docteur de l'Église. Mais quand il parle de l'Église, en fait, il voit l'Église comme unité. Il reprend cela, comme beaucoup d'entre vous le savent, à Saint-Cyprien, qu'il a abondamment lu, qu'il l'a précédé en Afrique du Nord, à Carthage, et qui, en réalité, hein, a profondément influencé la manière conciliaire, Vatican II, de repenser la nature même de l'Église. On y reviendra aussi, mais je ne voudrais pas trop insister ici, parce que je ne voudrais pas être, comment dirais-je, maladroit par rapport au conférencier qui va suivre et qui a comme sujet précisément le lien entre l'Eucharistie et l'Église. Donc Augustin est celui qui va insister sur l'Église prise comme unité. Pour Augustin, l'Ecclésia, c'est en fait l'unité de l'Église qui reçoit les clés, le pouvoir des clés et les exerce. Donc Augustin ne méconnaît pas le rôle des ministres, ni l'efficacité de l'action des ministres, parce que, dit-il, le Christ agit en eux et par eux. Mais il est incapable, Augustin, d'isoler l'agir des ministres de la présence agissante des fidèles. Il semble qu'Augustin lie l'idée d'Ecclésia, l'idée d'Ecclésia qui offre l'Eucharistie, en fait, il lie cela à la présence du Christ qui s'offre lui-même et le Christ tout entier, à la fois tête et corps. Je ne vais pas m'attarder sur ceci. Vous savez qu'au cours des temps, la compréhension sur la nature de l'Église va changer et la réflexion sur l'Église va passer d'une situation où, chez les pères de l'Église et les premiers chrétiens, l'Église était surtout vue comme une unité et comme une communion, on va progressivement évoluer vers une situation où on va faire la théorie de l'institution et surtout des pouvoirs qui structurent l'Église. C'est le fameux thème théologique, l'Église comme societas perfecta. Donc je dis ça sans aucune polémique, parce que si on est un tantinet intéressé par l'histoire, c'est véritablement déplacé, c'est le moins qu'on puisse dire, et même franchement choquant, d'aller injecter avec nos modèles, nos patterns actuels, nos manières, nos sensibilités de voir, d'aller juger ce qui s'est passé plusieurs siècles plus tôt, dans un tout autre contexte. Donc l'idée n'est pas d'aller, en tout cas dans mon chef, certainement pas d'aller critiquer le fait que pendant plusieurs siècles, on ait surtout mis en avant la nature de société parfaite de l'Église. Il y avait des tas de raisons pour le faire. Et en le faisant, on a rendu de réels services. Pour ouvrir la parenthèse que je vais refermer rapidement, à une époque de totale déglingue, où il n'y avait plus rien qui tenait en place, que les Congolais me pardonnent, mais c'est quand même un peu ce qu'une certaine presse belge rapporte, et certains voyageurs aussi, dans plusieurs coins du Congo actuellement, l'Église est pratiquement la seule institution qui tient encore les affaires en place, en tout cas qui permettent aux gens de manger. Et donc je veux dire que nous avons connu ça très largement et bien pire encore en Occident au cours de l'histoire. Et de ce fait-là, l'Église progressivement a affermi son autorité, je crois fondamentalement pour la survie des fidèles qui lui étaient confiés. Donc il n'y a pas à tirer sur cette conception-là. Il y a simplement à prendre acte et à bien se dire que la manière de comprendre la nature de l'Église aujourd'hui a profondément changé. Là où jadis on insistait sur la dimension sociétale de l'Église, et donc sa hiérarchie, et donc les pouvoirs que conférait l'ordination, essentiellement le pouvoir de célébrer l'Eucharistie, aujourd'hui la réflexion se fait davantage en termes d'unité et donc de communion. La nature profonde de l'Église est de faire signe au monde, à commencer par moi-même, de faire signe de l'unité qu'a Dieu et de l'unité qu'est Dieu. C'est sa mission, et c'est devenu la nôtre depuis le jour de notre baptême, qui n'est pas option. Comment pouvons-nous faire signe de l'unité de Dieu ? Réponse, via l'unité de l'Église. Ça signifie que quand on se chamaille en paroisse ou en communauté, il y a à réfléchir trois fois. Plus facile à dire qu'à faire. Mais l'unité, pour le chrétien, il n'est pas simplement l'objet de ce qu'on appelle la prière sacerdotale du Christ, l'unité fait partie de sa mission intrinsèque en tant que membre, en tant que pierre vivante de cet édifice qu'on appelle l'Église. Quand les pères de l'Église comprennent la liturgie comme l'acte d'un corps unique, à la fois le Christ-tête et son corps, vous ne serez pas surpris en apprenant que dès lors, par voie de conséquence, les pères de l'Église vont insister, et souvent, sur le sens des dialogues entre le prêtre et l'Assemblée. Dialogue que nous avons conservé de manière un peu plus déployée au moment pour commencer la préface. Donc il y a trois questions-réponses là, qui commencent ce qu'on appelle la grande prière eucharistique. Et donc, les pères de l'Église vont insister sur ce dialogue, pas simplement pour dire, écoutez, les prêtres vous réveillent, maintenant on vous demande trois fois de dire quelque chose, sortez de votre silence. Non, ce jeu de questions-réponses manifeste effectivement que l'Assemblée est véritablement le sujet de la liturgie. De même, insiste le Père de l'Église, l'importance de l'Amen que prononcent les fidèles. Et cet Amen, les Pères de l'Église y voient un sens fort de consentement, d'engagement. Comme répétera Augustin de mille et une manières, votre Amen est votre souscription. En prononçant leur Amen, soit tous ensemble à la fin du canon, écrit Congar. Donc en prononçant leur Amen à la fin du canon, soit individuellement en recevant la communion, les fidèles réalisent avec le prêtre l'unité du sujet célébrant. Voilà, c'est des mots, c'est un peu théorique, mais je trouve ça superbe. En prononçant Amen, et à la fin de la grande prière eucharistique, et au moment de communier, les fidèles manifestent leur union avec le prêtre célébrant. Et l'Amen, si vous voulez, manifeste à quel point c'est tous ensemble qu'on célèbre. En disant Amen, les fidèles, les membres de l'Assemblée qui ne sont pas prêtres, ne donnent pas au prêtre un pouvoir en fait qu'il a déjà et qu'eux n'ont pas. Ce n'est pas en termes de pouvoir que les questions se posent, mais en disant Amen, ils accomplissent autre chose, plus qu'une cérémonie. Il y a quelque chose qui se passe. Et par cet Amen, la communauté entre prêtres et assemblée se manifeste davantage. Et se manifeste davantage via cette concorde fraternelle, la présence promise par le Seigneur au cœur de l'action liturgique, et également le but de l'action liturgique, qui est ultimement, 1, la glorification de Dieu, 2, la sanctification des hommes. L'action du prêtre serait, pour ceux qui sont rivés sur le droit, l'action du prêtre serait valide sans l'amen de la communauté, en parenthèse, heureusement, lors de funérailles, bon, en paroisse, maintenant, je ne m'y habituerai jamais, mais je m'y fais. Mais la première fois, donc, vous voyez une église quand même relativement remplie, donc 150 personnes, et donc, le Seigneur est avec vous, silence de mort. Et pour les siècles des siècles, silence. On est bien, là. Alors, la première fois que ça m'est arrivé, je ne m'y attendais pas du tout devant tant de monde. Et donc maintenant, bon, ça vaut ce que ça vaut, mais je dis Amen en me disant, Seigneur, je voudrais dire Amen à leur place et avec eux, parce que probablement qu'ils le disent tout bas. Mais donc, si l'Assemblée ne dit pas Amen, ben, l'action du prêtre reste valide, mais elle ne reçoit pas sa pleine signification. Elle ne reçoit pas sa pleine signification. La signification, les signes, ce n'est peut-être pas le cœur des choses, mais il n'y a pas moyen d'arriver au cœur sans signe. Toute notre sacramentaire est construite sur du signe. Alors je sais que ceux qui sont davantage noétiques, alias les intellos, disent que signe renvoie à signe, donc c'est tout le jeu entre signifiant et signifié, certes, mais donc en réalité, dans les faits, Hein. Il y a quelque chose de visible, de palpable, hein, en termes sacramentaires, la matière du sacrement, le pain, le vin, l'eau, l'huile, hein, dans le cadre de la confession, hein, la réconciliation, la matière du sacrement, c'est quoi? C'est l'aveu, hein, donc c'est l'aveu du pénitent. Et donc, à travers le signe, hein, il y a une réalité qui est plus importante, hein, mais qui n'adviendrait pas à présence sans le signe. Et donc, à partir du moment, c'est une parenthèse, mais qui a son importance, à partir du moment où l'union du célébrant et de l'assemblée fait signe, hein, il est clair que cette union joue un rôle déterminant pour la présence visée par le sacrement de l'Eucharistie. Je sais que c'est relativement fort de dire ça. En tout cas, ça nous change par rapport à une formation de catéchèse que j'ai connue étant petit, enfin je veux dire plus petit. Et donc, ça signifie que là, à ce moment-là, on soulignait l'importance de la confection de la présence réelle de Jésus lors de la consécration. Pour cela, il fallait être prêtre, hein, et il fallait aller à la messe pour voir cela. Mais si je n'y étais pas, ben, elle se faisait quand même, cette présence réelle. Aujourd'hui, je ne dis pas qu'on dépersonnalise le rôle du prêtre, bien au contraire, on le verra plus tard, mais on articule davantage la mission du prêtre et celle de l'Assemblée en disant « c'est ensemble qu'ils font signe, et au travers de ce signe, Dieu est là ». Rappelez-vous aussi ce qui a été dit avec finesse par Paul de Clercq, c'est qu'il y a différents modes de présence du Christ dans l'Eucharistie. On a longuement parlé la fois dernière de ce mode de présence via sa parole. On évoque maintenant son mode de présence via l'Assemblée. Hein. Il y en a d'autres. Hein. Il y a le mode de présence via bien entendu, via la communion et via ce qu'on appelle dans le temps la transsubstantiation, donc le pain et le vin qui deviennent le corps et le sang du Christ. Le Concile Vatican II enseigne que l'Ecclésia est bel et bien le sujet des actes liturgiques. Et on voit donc que, contrairement à ce qu'on a écrit, parfois, la réforme liturgique de Vatican II n'a pas permis, je cite, « n'a pas permis enfin aux laïcs de participer à l'action des prêtres ». Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. En fait, Vatican II a redonné aux baptisés la fonction qui est la leur, hein, et qui en réalité est une fonction communautaire, hein, qui tient ou tombe avec l'Eucharistie. C'est tout l'adage « l'Église fait l'Eucharistie, l'Eucharistie fait l'Église » que développera Mgr de Chiesa la semaine prochaine. Et donc, en fait, aucun registre de la célébration liturgique, et en particulier eucharistique, n'échappe à cette nature communautaire. Tout acte liturgique est communautaire, parce qu'il est ecclésial. Je vous donne un exemple entre mille, enfin plusieurs exemples. Le rite qu'on appelait offertoire, hein, et qui maintenant s'appelle la préparation des dons, ou parfois on appelle cela l'apport des dons. Alors, la réforme liturgique issu de Vatican II, a réagi contre une compréhension de l'offertoire qui en faisait le moment de notre offrande. Hein, j'ai entendu ça, gamin. Hein, donc, le prêtre offre le calice, eh bien, toi, tu offres tes sacrifices, tu offres, quand tu n'as pas été sage, donc argument utilisé de manière indue par ma mère assez souvent, hein, tu offres ta colère ou je ne sais pas trop bien quoi encore, hein. Enfin, imaginons, puisque ce n'est pas une confession ici, hein. Et donc l'idée c'était de brancher les enfants, enfin, ou d'autres, hein, à s'unir au prêtre au moment de l'offertoire en s'offrant eux-mêmes, hein, mais sans lien intrinsèque avec le Christ, et cela aboutissait à surévaluer ce moment de la messe qui devenait très privé, et donc il fallait être là au moment de l'offertoire. Si on enlevait le voile du calice avant que vous n'arriviez, il fallait courir ailleurs en ville, comme j'expliquais la fois dernière. Et donc, en fait, en recentrant l'Eucharistie sur sa dimension ecclésiale, hein, d'un point de vue sociologique, on pourrait dire sa dimension communautaire, hein, eh bien, en fait, on va voir, par exemple, pour le rite de la préparation des dons, que ces rites sont désormais centrés sur l'apport des dons nécessaires à l'Eucharistie de l'Église. Et ces rites comprennent désormais deux temps forts. Un, la procession des dons, que le rite zaïrois met si magnifiquement en valeur. Donc chaque année, chez nous à Waterloo, donc, le jour de l'Épiphanie, qui est la journée de l'Afrique, hein, on essaye de convaincre quelques Africaines de venir donc, vivre ce rite, hein, avec cette majesté que beaucoup d'entre vous ont déjà vue. Hein. Mais je crois que c'est extrêmement précieux. Alors, donc, c'est souvent proposé, quand il y en a, aux enfants de cœur ou parfois aux enfants du catéchisme, donc à entrer solennellement avec les dons qui vont servir donc, à la prière eucharistique. Donc d'une part, il y a la procession des dons et d'autre part, il y a la prière sur les offrandes. Je ne résiste pas, en bon curé de paroisse, d'évoquer ici la collecte, hein, mais je vais le faire, hein, avec un des numéros de la présentation générale du missel romain. Et derrière cette boutade, il y a quelque chose de très beau au niveau du signe. Hein. Je sais bien qu'il y a des prêtres qui disent « Et au moment de la collecte, je ne veux entendre aucun bruit. J'ai entendu que des billets. Hein. » Mais je cite l'introduction du missel romain. C'est un usage à recommander que de faire présenter le pain et le vin par les fidèles. Bien qu'ils n'apportent plus, comme autrefois, du pain et du vin de chez eux, le rite de l'apport des dons garde sa valeur et sa signification spirituelle. On peut aussi recevoir de l'argent ou d'autres dons au profit des pauvres ou de l'Église, apportés par les fidèles. On les dépose à un endroit approprié, hors de la table eucharistique. Voilà ce que dit la rubrique, mais c'est magnifique. Quelles sont les paroisses au moment où on apporte la collecte, indépendamment de l'argent, on apporte également quelque chose de visible pour les plus démunis. On pourrait très bien, et ce serait liturgiquement remarquable pour les enfants, de les inviter à telle occasion que, en même temps qu'on apporte la collecte, qu'ils apportent l'un autre jouet qu'ils désirent partager avec des enfants moins gâtés qu'eux. Ce n'est pas la distraction, c'est retrouver la place de l'ecclésia, de l'assemblée, au cœur même de la célébration liturgique, et c'est une des formes de la participation active. Non pas qu'il faut être activiste, mais il s'agit, par notre participatio, de répondre à cet amour premier que Dieu nous offre. Comme la procession d'entrée, hein, au moment de l'entrée de la célébration, donc dans beaucoup de communautés, c'est ainsi que ça se passe, donc il y a une procession d'entrée avec les acolytes et le prêtre. Parfois, quand il y a des grands acolytes, il y a le porte-croix et puis il y a le turiféraire. Bien, cela signifie, en fait, cette procession, elle est précieuse d'un point de vue liturgique, d'un point de vue terrain. Pourquoi ? Parce que cette procession d'entrée, bon, elle permet éventuellement à des retardataires d'arriver tout juste à temps. Mais elle permet surtout de symboliser le déplacement qu'il faut opérer pour entrer dans la démarche eucharistique. Et donc, en entrant ainsi, hein, eh bien, tout en chantant et tout en marchant, le déplacement s'opère. Il ne faut pas aller se mettre à l'avant, prendre le micro et dire « Maintenant, on se tait parce que le prêtre entre. » Il faut le faire. Et donc, si possible, en entrant, il vaut mieux que les prêtres, s'il y en a plusieurs, ne parlent pas entre eux. Et encore moins les acolytes. Mais à ce moment-là, ils sont généralement encore calmes. Hein. Au début de la messe, on sait encore les tenir. Après, c'est peut-être plus délicat. J'ai connu un curé comme ça qui, pour savoir ce qui se passait, avait installé un petit rétroviseur à son hôtel. Alors, quand ça bougeait trop, il faisait comme les chevaux, il prenait son pied et il faisait. Alors, les gosses. Bien, ça n'a rien à voir avec la procession d'entrée, mais je vous dis que ne négligeons pas les déplacements en liturgie ont leur symbolisme, leur signification, à la fois spirituelle et également anthropologique. Si vous entrez au pas de charge, hein, eh bien, vous n'allez pas aider les personnes qui éventuellement auraient eu dur à trouver un parking et qui arrivent tout juste. Hein. Si vous entrez paisiblement, hein, mais un pas qui induit déjà un certain recueillement, vous allez aider l'Assemblée, à commencer par vous-même, du reste. Enfin, je dis vous, je m'adresse à ceux qui sont intervenants liturgiques et qui interviendraient éventuellement dans ce type de procession. Eh bien, c'est pareil pour la procession des dons. Elle souligne, sous contribution matérielle ou financière, elle souligne ce mouvement de dessaisissement de soi dans lequel le Christ veut et va nous entraîner. L'invitatoire qui précède les prières sur les offrandes, cet invitatoire dit très bien en sa version française qu'il s'agit du sacrifice de toute l'Église, et la réponse de l'Assemblée résume magnifiquement la finalité de l'Eucharistie pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Un autre moment important dans la pratique de nos célébrations, c'est le rite d'ouverture de la messe. On en a déjà parlé la fois dernière, mais c'est un rite vraiment important. Il est remarquable que l'Assemblée, en fait, rassemble des fidèles réunis au nom du Christ. Et c'est, je vous le rappelais tout à l'heure, c'est donc la première manière dont le Seigneur manifeste sa présence dans l'Eucharistie. C'est, je le redis, je crois que je vieillis parce que je me répète, en fait, je crois que c'est la partie pastoralement la plus délicate dans la liturgie. En tout cas, c'est une partie dont je suis personnellement très préoccupé. Comment est-ce que je peux aider mes frères baptisés à, d'emblée, si possible, entrer dans cette perspective mystique, c'est-à-dire, donc, ils sont là, appelés par Jésus, et ils forment un seul corps, et au travers de la liturgie qui va suivre, ils vont encore davantage faire corps avec la tête qu'est le Christ. Comment peut-on les aider dès l'entrée de la célébration? C'est pas, je crois, en insistant, comme je dis la fois dernière, en appuyant sur la culpabilité qu'on y parviendra. Beaucoup vont se rebiffer. Mais je crois en soulignant, non sans émerveillement, il y a de quoi, devant ce qui est, à savoir, tu es ici, et toi aussi, et nous formons ensemble un seul corps avec le Christ au milieu. Il ne faut pas attendre la consécration pour que le Christ soit là, ni sa parole. Il sera là autrement, et sans doute plus richement, puisque le Concile dit maximer au plus haut point sous les espèces eucharistiques. La découverte de la présence du Christ dans la parole proclamée, la découverte de la présence du Christ dans le ministre qui agit au moment de la consécration in persona Christi. En fait, cette découverte de plus en plus profonde de la présence du Christ dépend pour une large part de ce tout début de la célébration. Et cela va donc donner une valeur non négligeable à ce temps d'ouverture comme premier moment, comme moment premier où nous sommes invités à accueillir le Christ au milieu de nous. Et donc, ce n'est pas une question de « j'aime pas » ou « je veux pas » ou « je suis fatigué ». Lui aime, il veut et il n'est pas fatigué. Donc, d'emblée, dès l'ouverture de la célébration eucharistique, nous sommes mis face à un autre que nous-mêmes, que nos goûts, que nos sentiments, que nos émotions. Qui nous attend? Qui nous attend? Comment peut-on faire découvrir cela? Désormais, quand nous nous réunissons en assemblée, il ne nous est plus demandé, en tout cas nécessairement, de commencer par une génuflexion, mais plutôt de saluer ceux qui nous entourent. On peut faire les deux, mais c'est tout le délicat équilibre entre silence et parole que j'évoquais la fois dernière. En paroisse, quand on ne se voit guère, et qu'on arrive à temps, imaginons qu'on arrive à temps à la messe, s'installer comme ça en silence et sans un regard pour l'autre à côté de moi, ça me pose quand même question. Je ne dis pas qu'il faut commencer à raconter sa semaine, mais c'est quand même particulier. On peut en discuter. Dans un monastère, c'est différent, bien sûr. Alors, il y a le fameux Dominus Vobiscum, donc le Seigneur soit avec vous, par lequel le ministre assure l'Assemblée que l'Esprit est vraiment avec elle, en tant qu'elle appartient en vérité à l'Église de Dieu. Et, en fait, par cette invitation, où l'Assemblée demande au ministre d'être à son affaire, et avec ton esprit, sois-y aussi, toi, avec l'Esprit Saint, En fait, le prêtre, hein, le président de l'Assemblée, va donc rappeler, hein, la place de l'Esprit-Saint. C'est extrêmement discret, hélas. Hein. Ah, c'est extrêmement ténu. Hein. Mais c'est tellement essentiel. Car, dira Clément de Rome, hein, père de l'Église, un des premiers pères de l'Église latine, l'Esprit est à la fois abondamment répandu sur tous, hein, et en fait, il donne à certains une tâche spécifique au service de tous. Rassemblement dans l'esprit de toute la communauté pour un seul acte que tous accomplissent, chacun selon leur charisme propre et selon leur mission propre. On retrouve ces mêmes égards, cette même importance donnée à l'Assemblée au début de la prière eucharistique. Alors, s'il est important et même indispensable d'avoir une bonne compréhension de la prière eucharistique et d'en connaître, d'en comprendre si possible tous les éléments, il est nécessaire, on ne sera jamais assez de souligner, d'en saisir toute la dynamique. Hein. Il est important de voir le mouvement de la prière eucharistique. Hein. Et c'est grâce à cette mise en œuvre de la dynamique de la prière eucharistique, sur laquelle nous reviendrons, hein, que l'Assemblée comprendra ce qu'elle doit faire dans l'Eucharistie. Elle ne va pas le deviner. Donc, en réalité, il y a un mouvement imprimé dans l'Assemblée, dans la prière eucharistique, et l'Assemblée, en fait, va entrer dans ce mouvement, hein, qui va culminer par son Amen, hein, à la fin de l'élévation qui clôture la prière eucharistique au sens strict, Amen, qui, dans beaucoup de paroisses, hein, enfin, dans plusieurs paroisses, est chanté de manière tout à fait solennelle, parfois il est répété trois fois. À juste titre, il est essentiel. Et donc, en fait, initier la prière eucharistique, c'est pas seulement apprendre à discerner le corps du Christ, ni même apprendre à découvrir les différents éléments qui composent la prière eucharistique. Initier à la prière eucharistique, c'est faire élever les cœurs et rendre grâce à Dieu dans l'esprit pour notre vie ressuscitée dans le Christ. Élevons notre cœur. Quand le célébrant dit cela, comment peut-il, hein, entraîner l'Assemblée, hein? C'est sans théâtre et en même temps en restant véritablement lié au service ministériel qu'on attend de lui à ce moment-là. Donc, c'est une question qu'on reprendra en parlant de la présidence de l'Eucharistie. Mais donc, je donne déjà un élément de solution que vous devinez. La règle d'or a été donnée d'emblée dans ces conférences. Hein. En liturgie, ne dites pas ce que vous faites, faites ce que vous dites. Hein. Quand le prêtre dit « élevons notre cœur », qu'il l'élève de grâce. Ce n'est pas le moment où dire « élevons notre cœur » et de regarder avec des grands yeux l'acolyte qui vous a dit que je lui en veux, mais... Est-il besoin de rappeler une fois encore que le véritable sujet de l'action liturgique, c'est le peuple de Dieu convoqué pour la célébration. Et donc, comme toute prière liturgique, la prière eucharistique, vous l'aurez marqué, est formulée à la première personne du pluriel. C'est le fameux « nous » ecclésial. Et le dialogue d'introduction à la prière, donc ce qu'on appelle le dialogue qui commence la préface, s'adresse non pas au Père, mais à l'Assemblée. C'est un détail qui est vraiment important. Et cela pour assurer que la prière soit bien une action commune, que tous soient, si vous me permettez ce mot, co-émetteurs de la prière en nous proclamée par le prêtre. Ce n'est pas un « je » que le prêtre utilise pendant la prière eucharistique, c'est « nous ». Nous te rendons grâce, Père Tout-Puissant. Et donc, ce « nous », ben c'est nous, c'est pas simplement, il ne parle pas comme le pape en nous majestatif. Le « nous », c'est l'Assemblée. Et donc, le dialogue qui introduit la préface vise à entraîner l'Assemblée dans cette grande action, hein, qu'est la prière eucharistique. Et puis, bon, est-ce qu'il faut le rappeler, donc, ce qui a été dit à propos de l'Amen de l'Assemblée, hein, qui clôt la prière eucharistique, et qui exprime l'intense participation de l'assemblée à la prière du prêtre, non pas par synchronisation, mais par communion. Le « Amen » veut dire pas simplement « Écoute, j'ai fait attention, je te dis « Amen » au bon moment hein, », mais je communie, hein, je m'engage. L'anamnèse, un tout petit mot sur l'anamnèse. Hein, c'est en fait, c'est un splendide résumé de l'Eucharistie qui est adressé au Christ, hein, et cela par une assemblée admirative. Puisque la prière d'anamnèse comporte, comme vous le savez, deux parties. Elle dit d'abord ce qu'on fait, l'action de l'Église, faisant, faire, action, faisant ici mémoire. Hein, quelle mémoire hein, eh bien, c'est la mémoire de la mort de Jésus, de sa résurrection et de sa venue dans la gloire. Hein. Qui fait mémoire? Qui proclame l'anamnèse? L'assemblée, inclusivement le prêtre. Alors, je terminerai par ceci, à propos de la communion. Ce n'est pas le seul moment important de la messe, bien sûr, c'est un moment culminant. Il est riche des différents modes de présence du Christ. Hein. Et, en réalité, la communion est essentielle pour notre sujet, dans la mesure où, on l'a suffisamment dit, on le répétera jeudi prochain, l'Eucharistie construit l'unité de l'Église. Mais il faut dire que ça, c'est in spe, en espérance. Beaucoup, beaucoup de fidèles, de baptisés fervents, hein, ont en réalité une conception très individuelle de l'union au Christ au moment de la communion. Et je crois, en partie, au détriment du sens communautaire, à savoir l'unité du corps du Christ, qu'à la communion. Au temps des pères de l'Église, et en particulier saint Augustin, la finalité de l'Eucharistie, ce n'est pas d'abord et avant tout de recevoir Jésus dans mon cœur, mais c'est d'être sacrement, donc signe de l'unité de l'Église. La communion est un grand, grand moment d'unité. Un grand moment d'unité. Et qui n'est pas toujours perçu. Je termine par une histoire vraie, l'histoire d'un mariage. Donc vous savez que, pardonnez-moi si je dépasse un peu. Donc vous savez que, en fait, quand on reçoit des fiancés, il faut assez rapidement discerner avec eux, est-ce que vous souhaitez le sacrement du mariage, hein, comme tel, ou souhaitez-vous le sacrement du mariage et le sacrement de l'Eucharistie? En clair, on dit, voulez-vous célébrer l'Eucharistie pendant votre mariage? Donc un jour, je reçois deux fiancés, donc un homme et une femme, rassurez-vous. Hein, et en fait, hein, je leur demande, parce que j'ai déjà eu deux hommes, hein, et ça c'est beaucoup plus embêtant. À mon avis, c'était de la provoque, mais c'est... Comment est-ce qu'on peut rester charitable, évangélique, et en même temps ne pas les flanquer dehors? Et donc, en fait, je leur demande, est-ce que vous voulez une Eucharistie? Ils me regardent avec de grands yeux. Je dis, mais oui, est-ce que vous voulez que, avec votre mariage, est-ce qu'il y ait une messe? Je vois que les yeux s'agrandissent. Alors, je dis, enfin, une consécration. Et il y avait manifestement un moment d'inquiétude dans le regard de la femme. Mais je dis, mais oui, quand on va à communion, là j'ai vu que c'était presque la panique. Et puis, en langage de BD, on dirait une ampoule hein, et des petits rayons. Brusquement, le gars me dit « Ah oui, c'est quand tout le monde bouge et que les gens reviennent en faisant « Eh bien, nous voulons ça !» Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, je dis « Écoutez, je crois que c'est un peu délicat. Hein, et donc, peut-être que le sacrement du mariage suffira. Non, non, on veut. » Alors, je dis « Écoutez, alors il faut prendre le temps de découvrir ce qu'on appelle l'Eucharistie. » Ben oui, on va faire ça. C'était une très chouette catéchèse eucharistique pendant plusieurs semaines avec eux. Mais voilà le terrain, enfin un certain terrain. Voilà, on va faire un break et puis pour les questions...